Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'une ferme isolée, d'une femme terrifiée et d'enfants devenus vieux. Je vous présente Les Sources, un roman de Marie-Hélène Lafon, paru en 2023 aux éditions Buchet-Chastel. Marie-Hélène Lafon avait obtenu le prix Renaudot pour Le Fils, un roman qui était paru en 2020. Comme dans Le Fils et dans nombre d'œuvres de l'autrice, c'est la famille qui est au centre de ce roman. Une mère, un père et les trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles. Une famille qui vit dans une belle ferme isolée du Cantal, à la fin des années 60, dans un cadre en apparence idyllique. Pourtant, dès la première page du roman, une tension s'installe. Il dort sur le banc, elle ne bouge pas, son corps est vissé sur la chaise, les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé, ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée, elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente, on sera chez elle, de son côté. On pourra rire et parler fort. Il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans 3 semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, 3 enfants, Isabelle, Claire et Gilles. 2 filles et 1 garçon, 7, 5 et 4 ans. Une ferme, une belle ferme, 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture. Le permis de conduire. Heureusement, elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. J'aime beaucoup la manière dont Marie-Hélène Lafon, dans ce passage, met en place un véritable tableau. La façon dont les corps sont disposés dans l'espace est très symbolique. Hein. Les enfants qui jouent de leur côté, la femme figée, seule, et plus loin, l'homme endormi qu'il ne faut surtout pas réveiller. On sent tout de suite la peur dans cette expression « il n'aura pas le dessus ». Cette peur, cette tension perdure tout au long du roman, qui est très court, et que j'ai lu presque d'une traite, comme en apnée, un peu comme cette femme qui n'ose pas respirer, qui n'ose pas bouger de peur de déclencher la colère et les coups. Une femme gelée, en quelque sorte, hein, pour reprendre le titre d'un beau récit d'Annie Ernaux. Je dis gelée, qui n'ose pas bouger, mais ce n'est pas complètement exact, hein, parce que la femme semble se maintenir en vie grâce au mouvement mécanique du quotidien. Et la manière dont la violence surgit au milieu des tâches domestiques est terrible. Ce passage m'a particulièrement marquée. La corbeille à linge est presque pleine. Elle se tient dans l'allée du jardin et secoue la tête pour ne pas penser à ses 6 premiers mois de son mariage, de janvier à juin 1960, où elle habitait Soulages. Elle se souvient et ça cogne de tous les côtés. Elle a été enceinte tout de suite. Isabelle est née le 30 novembre 1960, 11 mois jour pour jour après leur mariage. Les 2 combinaisons, le chemisier, la jupe, elle les dépose sur le dessus de la corbeille. Elle ne reconnaît pas son corps que les 3 enfants ont traversé. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des 3 césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste, saccagés. Son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit « Tu ressembles plus à rien ». Il dit « Tu pues, ça pue ». Et il s'enfonce. Il y a un aspect très organique dans sa description. Le corps signifie en fait la vie entière de la femme, avec ce mot « saccagé » qui revient plusieurs fois dans le récit. Parce que le corps de la femme saccagée par les grossesses est à l'image de sa vie tout entière. À chaque page, on se demande, mais jusqu'à quand va-t-elle tenir? Est-ce qu'elle va réussir à partir? Et on pense bien sûr au danger imminent que constitue cet homme violent verbalement et physiquement. Cet homme que craignent aussi ses enfants. C'est vraiment un danger de mort hein, qui plane sur la femme et ses enfants. Pourtant, la famille, les employés qui travaillent à la ferme semblent ne rien remarquer. Et puis, la femme elle-même a honte, elle ne dit rien, elle cache les marques de coups. Et je trouve que la mécanique de la violence conjugale est très bien décrite. Plus l'homme est violent, plus la femme a honte de la situation et d'elle-même, et moins elle est apte à parler de ce qu'elle vit, et plus l'homme du coup agit à nouveau en toute impunité. Ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est la manière dont l'autrice l'a organisé en trois parties, avec des voix et des temporalités différentes. La première partie, qui se déroule sur deux journées, le samedi 10 et le dimanche 11 juin 1967, est centrée sur le personnage de la mère, comme on l'a vu. La deuxième est constituée par la journée du dimanche 19 mai 1974, et nous entendons le flux de conscience du père. Et enfin, le jeudi 28 octobre 2021, Claire, la fille cadette, revient sur les lieux de son enfance pour signer la vente de la maison après la mort de son père. Cette construction avec cet étirement temporel pourrait complètement diluer le récit. Et pourtant, il n'en est rien. Parce que le fil conducteur, eh bien, c'est cette violence initiale. Comment court-elle dans la famille? Quelles conséquences est-ce qu'elle a au fil des années? J'aime aussi que le personnage du père ne soit pas complètement manichéen. C'est un homme horrible avec sa femme, il la méprise, il la maltraite sans aucun remords. Hein. Mais on voit tout de même des traces d'humanité dans l'attention qu'il porte à ses enfants, même si cette attention a du mal à s'exprimer. Et puis j'aime beaucoup ces dernières pages pudiques du retour de Claire dans la maison de son enfance, où le titre du roman, Les sources, est expliqué. 5 années et demie dans la vallée de la Santoire et une vie entière entre Aurillac, Fridière et Paris. La source serait là, une source. Elle préfère le mot source au mot racine. Elle a beaucoup retourné ses questions quand elle avait 30 ou 40 ans. Elle sait que sa sœur et son frère s'arrangent aussi comme ils le peuvent avec cette maison des petites années. La cour et l'érable, Fridière et le reste. Dans une interview à la librairie Mola, le 19 janvier 2023, Marie-Hélène Lafont évoque « les petites années, ce que nous portons tous en nous, c'est-à-dire le lieu et le milieu où nous avons commencé d'être, on porte en soi définitivement, à la fois comme un trésor et comme une plaie, ce legs. C'est ce que j'entends par source. » Le roman, avec le flux de conscience des trois personnages, charrie les souvenirs qui s'écoulent comme une eau puissante, faite de violence, mais aussi d'envie de vivre. Je vous conseille donc ce beau roman de Marie-Hélène Lafont, Les Sources, un récit à la fois simple et intense, paru en 2023 chez Buchet-Chastel. Et puis, vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.